L'invité du matin.
Un spectacle grandiose ce week-end devant les rochers de Ploumanac. Une baleine à bosse s'est laissée observer. Un phénomène rare. Pour nous en parler, je suis avec Sami Hassani, expert de mammifères marins au sein de l'Océanopolis. Bonjour monsieur Hassani.
Oui, bonjour.
Alors c'est un phénomène exceptionnel sur la côte de Granit Rose.
Alors c'est un phénomène rare, mais qui, à mon avis, dans les prochaines années, ne sera pas exceptionnel ou si exceptionnel, dans le sens où les baleines à bosse, c'est une espèce de baleine qui a fortement bénéficié du moratoire de la chasse, donc de sa protection, et dans les populations mondiales, se développe un peu partout, hein, dans toutes les populations qui sont étudiées. Et de ce fait, la Bretagne se trouve sur un des axes de migration de cette espèce. Et donc, on pourrait s'attendre à en voir un peu plus. Hein. Ça fait déjà 3-4 ans qu'au moins, on a au moins un signalement par an.
D'accord. Alors, une baleine dans la Manche, c'est pas vraiment dans cette mer qu'on a l'habitude de la voir. Hein. Quels sont les trajets des baleines? Elles ne restent pas au même endroit.
Hein. Non. Alors, les baleines, pour la plupart des espèces, et en l'occurrence la baleine à bosse hein, qui nous concerne, c'est une espèce qui va se reproduire et vivre une partie de son année dans les eaux chaudes, tropicales et subtropicales, où elle va donc, il va y avoir les accouplements, les mères qui ont des jeunes vont les allaiter, etc. Et puis à la fin de l'hiver, printemps, et donc en été et à l'automne, on va les retrouver plutôt dans des zones plus au nord, qu'elles soient des zones polaires ou subpolaires, pour aller s'alimenter intensément de poissons qui foisonnent au moment du printemps et de l'été polaire. Et donc dans ces zones-là. Et certains groupes vont migrer en plein Atlantique pour aller, par exemple, en Islande ou au nord de l'Islande, donc par le centre. D'autres vont rejoindre l'Atlantique Nord et l'Arctique par la Manche et la mer du Nord pour rejoindre notamment, par exemple, les fjords en Norvège.
D'accord.
Où on peut observer des baleines à bosse s'alimentant de harengs. Donc on est sur un trajet migratoire. Donc elles peuvent passer très près des côtes, un peu plus au large. C'est une espèce qui est assez à l'aise dans des eaux peu profondes pour se déplacer et s'alimenter. C'est un spectacle qui, j'espère, se répétera encore d'année en année.
Oui,
et puis, de toute façon, là, on est un peu tôt dans le trajet migratoire. Hein. Souvent, c'est plutôt au mois de mars, avril, mai, juin qu'on les voit passer. Quoi.
Et alors, du coup, c'est une observation, mais qui est près des côtes. Est-ce que c'est logique qu'elles viennent aussi près des côtes?
Oui, c'est comme je le disais, c'est une espèce qui est relativement à l'aise dans des eaux peu profondes et très côtières. Bien sûr, il faut un minimum d'eau. Hein. Et puis, lors de leur trajet de migration, si ces baleines rencontrent des bancs de poissons ou toute autre espèce qui pourrait leur servir dans le plancton hein, ou le macroplancton d'alimentation, elles vont s'en alimenter. Donc, je ne sais pas si cet animal-là était en prospection ou juste en simple déplacement et puis au gré de son déplacement, prospecte, regarde un peu comment c'est. Mais c'est une zone où il n'y avait pas de danger pour elle. Quoi.
Non, pas pour elle. Mais est-ce qu'il y avait du danger pour, par exemple, des bateaux qui seraient passés près d'elle?
Alors, ce qu'on recommande tout le temps face à des... Bah, de toute façon, même des petits cétacés, c'est de ne jamais s'en approcher trop près, tout simplement pour ne pas les déranger dans leur activité. Et puis pour ne pas non plus risque de les blesser, de manière générale. Après, face à un grand cétacé comme ça, évidemment, si l'animal se sent menacé, vous imaginez un animal de plusieurs tonnes, un coup de caudale ou un animal, même sans le faire exprès, en sortant de l'eau, sachant que c'est une espèce qui peut faire des bonds. Hein, y a eu quelques accidents dans le monde où des bateaux se sont retrouvés presque écrasés ou des fois écrasés sous une baleine qui venait de sauter et qui est retombée. Quoi.
Ouais, alors...
Ou un coup de queue qui, malencontreusement, on voit l'embarcation voler, entre guillemets. Vraiment, il faut respecter une certaine distance, ne pas aller très vite et ne pas vouloir être en contact direct avec l'animal.
Bien sûr. Et avec les photos et les vidéos, vous avez pu tout de suite analyser l'espèce?
Oui. C'est une baleine à bosse se reconnaît très facilement. Elle est très distincte des autres baleines qui fréquentent nos eaux. Ce qu'on peut voir dans nos eaux, il y a le petit rorqual, donc qui est une petite baleine qui ne dépasse pas les 10 mètres, qui a le dos très sombre, et puis qui a surtout un aileron falciforme. Alors falciforme, ça veut dire en forme de faucille, hein, comme les ailerons de dauphin, on va dire. Ce qui n'est pas le cas de la baleine à bosse, où c'est plutôt plutôt une espèce de crénelure sur le dos, un petit renflement, une petite bosse. Et puis elle a une façon très particulière avant de plonger. Il y a la courbure du dos, il y a la forme de la tête, et puis il y a la caudale. Et puis alors si elle saute, on voit ses longues pectorales, ses longues nageoires là qui sont devant. Donc on ne va pas se tromper. Donc effectivement, tout de suite, on a pu identifier que c'était une baleine à bosse. Et grâce à certaines photos, alors je ne sais pas, je ne vais pas avoir le résultat là tout de suite, mais comme dans les populations qui sont suivies, on a des collègues aux Antilles qui font de la photo-identification, je leur ai envoyé les photos de la caudale, donc de la queue de la baleine, parce que c'est comme ça qu'on différencie les individus des uns des autres.
D'accord.
Vous avez vu, c'est très crénelé, et puis il y a des motifs avec un peu de blanc autour de la caudale, et donc chaque individu a ses propres motifs, sa propre crénelure, morphologie de la caudale aussi, qui peut être parfois blessée. On verra si c'est un animal qui est connu dans les Antilles, dans l'arc même caribéen, hein, puisqu'il y a même des groupes dans les Caraïbes britanniques ou américaines qui font ce suivi, et donc tous ces gens-là travaillent en réseau. Après, il n'est pas dit que c'est un animal qui vient de là, hein. Il y a également des baleines à bosse qui viennent du Cap Vert, hein, qui peuvent migrer, on peut observer au large des Canaries, de Madère, et puis après dans nos eaux, et puis après plus au nord, dans les eaux du nord de l'Europe. Mais enfin, c'est intéressant de pouvoir avoir ces photos-là, et puis de tenter de les exploiter dans le cadre d'un travail qui se fait avec nos collègues, quoi.
Les baleines, elles se déplacent en groupe. Là, vous pensez qu'elle était toute seule?
Alors, pas forcément en groupe. Bien sûr, il y a des groupes, hein. Quand il y a des groupes, c'est souvent femelles avec des jeunes.
Ouais.
Les mâles peuvent être solitaires. Il peut y avoir des subadultes aussi qui font leur... subadultes, c'est adolescents, entre guillemets, qui peuvent se déplacer seuls. Hein. Donc, je ne dirais pas que ce soit un animal perdu, non. Et bon, je ne sais pas si vous avez eu cette info, mais il y a une semaine à peu près, 10 jours, pratiquement 2 semaines, il y a une baleine à bosse qui s'est échouée, malheureusement morte, celle-là, dans le Nord-Pas-de-Calais.
D'accord.
Donc ce qui montre qu'il y a déjà un mouvement de certains individus qui commencent à se déplacer, quoi. Et parfois, bah, il y a des animaux malades ou en fin de vie qui s'échouent. Donc voilà.
Et à l'Océanopolis, vous recensez les baleines ?
Alors, à Océanopolis, moi, je dirige une association qui s'appelle ACMOM, Association de conservation des mammifères marins, des mammifères et oiseaux marins de Bretagne. Et on a lancé un programme de sciences participatives, notamment pour les mammifères qui fréquentent la rade ou à proximité de la rade. Mais on recense également, si on a des signalements comme cette baleine au niveau de la Bretagne, on est aussi preneur de données sur la Bretagne. Et ce qui nous permet de se faire une idée de la diversité des espèces qui fréquentent notre littoral. Et puis avec le recul et les données anciennes, voir l'évolution. Il y a des espèces qu'on ne voyait pas avant et qu'on voit maintenant très présentes. Le marsouin commun, par exemple, qui était très abondant dans les années 50, qui a disparu dans les années 50-60, et puis qui est revenu dans les années 90. Et ça, on a pu le voir grâce à ce type de données, les observations donc du grand public, on va dire. Et puis grâce au suivi des échouages de mammifères marins, donc les animaux qui malheureusement on trouve morts, hein, mais bon, ça fait partie du cycle de la vie, quand il n'y a pas d'autres causes. Et donc c'est des données assez importantes. Alors c'est pas des données qui vont nous permettre d'estimer la taille des populations,
Ouais. Mais
avoir une idée de l'évolution du cortège d'espèces qui fréquentent notre littoral et nos eaux.
On pourrait voir des requins aussi?
Alors, des requins, bien sûr. Alors, il y a toujours eu des requins en Bretagne.
Oui.
Mais il y a des espèces qui sont plus ou moins observées, certaines ont été chassées, pêchées. Quand je dis chasse, je pense beaucoup aux requins pèlerins, par exemple. Mm-hmm. On s'occupe de nos amis de l'association Apex, par exemple, qui étaient pêchés, hein, pour essentiellement son foie. Et on en observe, il y a des suivis qui sont faits par l'Apex sur cette espèce. Le requin taupe dans les Côtes d'Armor, qui est une espèce dont on sait qu'elle était déjà présente il y a très longtemps, hein, puisqu'on retrouve des textes anciens qui font mention de cette espèce. Et là aussi, sans doute, un peu de surpêche un peu partout en Europe sur cette espèce, ça fait que les effectifs ont chuté. Du coup, maintenant, la pêche est interdite. Et on revoit depuis quelques années des observations. Donc... il y a des actions de conservation qui marchent, heureusement. Ça ne marche pas tout le temps, mais dans le cas de la baleine à bosse, ça marche. Pour le requin taupe, ça a l'air de marcher, en tout cas localement, puisqu'on revoit une espèce qui était très présente revenir. Voilà, donc, mais il faut être prudent avec ces choses-là. C'est sur le long terme que les choses se confirment.
Vous leur mettez des balises, peut-être ?
Sur les baleines ?
Alors, pas sur les baleines, peut-être plus sur les requins que...
Alors, là, il faudrait contacter mes collègues de l'APEX, mais ouais. Oui, je sais qu'ils ont des programmes de balisage de requins top. Hein. Mmh. Il y en a quelques-uns qui ont été équipés.
Les baleines, c'est plus compliqué, c'est sûr.
Alors, ça se fait sur les baleines.
D'accord.
Ça se fait. Alors, ce qui est un peu complexe, c'est la fixation. Donc, c'est des systèmes à ventouse.
Oui.
Et bon, ça tient quelques heures, parfois quelques jours, mais il y en a qui le font. Nous, on le fait plus facilement sur les phoques. Sur les phoques, et en particulier le phoque gris, puisque c'est... Là, il y a un pelage, et on peut coller la balise sur le pelage.
Oui.
Et ça tient un certain temps quand même, beaucoup plus que des systèmes à ventouse. Voilà, mais non, il y a de la télémétrie, ce qu'on appelle la télémétrie, se développe beaucoup justement pour étudier ces espèces mobiles, puisque justement, donc, si on parle conservation, protection, etc., quand on a affaire à des espèces mobiles, on comprend très rapidement, en fonction de le territoire utilisé par ces espèces, que ça ne va pas concerner qu'un pays, qu'un État, mais plusieurs. Et donc, il faut envisager une conservation à une échelle beaucoup plus vaste que sur notre simple territoire. Puisque si un animal est protégé ici et puis qu'il, lors de ses déplacements, se retrouve dans des zones où là, il ne l'est pas, la mesure de conservation va être un peu minimisée, on va dire.
Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Hassani, hein, expert en mammifères marins, de nous avoir éclairé sur la baleine à bosse, entre autres.
Je vous remercie, à vous.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir. Fou.